Vous avez sûrement entendu parler de cette la pharmacienne millionnaire, là,
oui,
elle, hein,
oui.
La jeune pharmacienne, Éliane Gamache-Latourelle, qui avait eu beaucoup de problèmes au cours des derniers mois et là qui a officiellement donc déclaré faillite personnelle. Et pour nous parler de tout ça, nous parler de faillite, parce que vous et moi aussi, on peut arriver parfois, malheureusement.
On n'est pas à l'abri de ça.
C'est peut-être la seule issue ou peut-être pas non plus. Donc, pour nous parler des tenants et aboutissants de tout ça, on a avec nous autres Jean-Philippe Cipriani. Salut Jean-Philippe.
Salut tout le monde.
Allô.
Comment est-ce qu'on en arrive comme ça à dire, hey, tabarouette, je fais une faillite personnelle?
Oui, puis de devenir une ex-jeune millionnaire.
Oui.
l'an dernier, il y en a eu quand même 22 000 des faillites au Québec. Puis presque autant, 19 000, ont fait une entente avec leurs créanciers parce qu'ils étaient au bord de la faillite. Donc, la faillite, c'est un peu le dernier recours, mais effectivement, avant d'arriver là, on est très endetté au Canada. On a en moyenne un endettement de 170. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Hey.
Ça veut dire qu'en moyenne, pour chaque dollar qu'on gagne, on doit 1,70.
C'est fou, ça.
Ah, ouais. C'est énorme. Depuis l'an 2000, la dette moyenne des ménages a presque doublé au Canada. C'est trois fois plus vite que l'inflation, ça. Mais il ne faut pas partir en peur pour autant, parce qu'il faut faire la différence entre deux choses. Les bonnes dettes, puis des mauvaises dettes.
C'est ça, ça inclut, je suppose, l'emprunt hypothécaire aussi.
Exactement.
Là.
C'est ça, l'emprunt hypothécaire, c'est rattaché à un actif, donc à
là,
une maison.
Encore là, ça peut être aussi une mauvaise dette, une hypothèque, si tu t'es pris une maison que tu n'avais pas le moyen d'avoir, un prix aussi. De maison.
Souvent, ce que les gens font, en plus.
Malheureusement, parce que quand les taux d'intérêt sont bas, les gens font, hey, wow, je peux me permettre ça, mais t'es pas à l'abri quand ça va monter, que tu n'auras peut-être plus le moyen de payer ça.
Exactement. Puis si les maisons sont surévaluées en plus,
t'es
vraiment dans. Mais en théorie, c'est une meilleure dette.
T'es vraiment dans la marde.
J'allais le dire. Mais ça, c'est moins pire quand même que la mauvaise dette, qui est la dette de consommation. Bon, les vêtements, les autos, tout ce qui se déprécie, ça, c'est une chose, mais surtout les cartes de crédit. Ça, c'est les pires dettes.
Ouais.
Taux astronomique d'à peu près 20.
Ah oui, tu te fais manger vivant tout le temps. Là.
Complètement. Puis la dette des ménages, pour ça, je dis, il ne faut pas partir en peur. C'est la dette de consommation, les cartes de crédit, tout ça, c'est un peu moins du tiers des dettes. Les deux tiers, c'est des emprunts hypothécaires. Okay. Donc, il y a des actifs quand même. Il ne faut pas partir en peur.
Mais vite comme ça, on revient à la question de Pat. Pat te dit comment qu'on peut en arriver là.
Ouais.
Si on veut résumer ça très rapidement, je pense que c'est quand à un moment donné, la colonne des dépenses est rendue plus élevée que la colonne des revenus.
Puis quand tu commences à rembourser, quand tu as plusieurs cartes de crédit, tu commences à rembourser une carte de crédit avec une autre.
Quand tu pèles par en avant, quand tu payes le minimum, quand tu
retires de l'argent sur ta carte de crédit, quand tu limites tes dépenses qui sont essentielles.
Ouais.
Mais là, Jean-Philippe, écoute, je te pose la question. Là.
Ouais.
Une faillite personnelle. Puis là, j'y vais vraiment là, vulgairement. Là. Mais est-ce que tu fais ça à partir du moment où tu as à peu près le choix entre la corde ou ça? Ou si c'est...
C'est une solution extrême parce qu'il y a d'autres options avant. Quand tu es dans le surendettement, c'est de ça qu'on parlait, d'abord, tu vas mettre toutes tes factures sur la table de cuisine, les montants, les échéances, tu vas faire un budget puis tu vas dire, est-ce que c'est possible que je rembourse tout ça? Tu vas prioriser tes dettes aussi.
Mm-hmm.
C'est celles qui ont les plus hauts taux d'intérêt que tu vas rembourser en premier, évidemment.
Puis le truc de réunifier tout ça, là, je pense
la consolidation.
Que
c'est exactement, la consolidation. Avant la consolidation, tu vas appeler tes créanciers. Puis tu vas leur dire... Je suis dans la marde. Je vais reprendre ce que tu as dit tantôt.
C'est bon.
Et eux, ils ont souvent plus intérêt à ce que tu rembourses les trois quarts de ce que tu leur dois plutôt
que rien du tout.
Si ça ne marche pas, là, tu appelles ta banque et là, tu as la consolidation de dettes. Là, tu vas avoir un prêt pour rembourser toutes tes dettes d'un coup. Puis ça va être un montant fixe, un seul prêt de la banque, taux plus bas. Puis tu vas avoir un seul paiement par mois avec échéance prévue.
Ouais. Ça, c'est diminue les risques. S'ils veulent.
Ça, c'est s'ils veulent, effectivement.
Mais la consolidation de dette, est-ce que ça a un impact par la suite sur ton crédit? Parce que veux pas, ça, c'est une des réalités, que ce soit la consolidation ou encore la faillite.
Ça, c'est l'avantage.
Après, c'est difficile.
Exactement.
Là.
C'est que la consolidation, tu n'auras pas un effet majeur sur ton crédit. Mais si ça ne marche pas, là, tu vas voir un syndic, puis tu vas te placer sous la loi de la protection des créanciers.
Là,
tu vas t'entendre avec tes créanciers, et on appelle ça la proposition du consommateur. Et la dernière étape, si même ça ne marche pas, si tu n'es pas capable de t'entendre, si le syndic ne s'entend pas avec les créanciers, là, tu t'en vas en faillite.
Okay.
Et là, évidemment, ça va affecter ta cote de crédit, ta réputation. Et quand tu vas vouloir emprunter, ça va être à des taux plus élevés et on va vouloir te prêter beaucoup moins.
Le clan McLeod.